5h, 7h,
Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 en ce mercredi 12 juin. Je suis ravi d'être à vos côtés ce matin. On va s'informer, s'amuser et apprendre plein de choses à n'en pas douter. Mais avant de commencer, j'aimerais les copains vous partager un courrier qui nous a été adressé. Courrier dont l'auteur n'est autre que l'habituel locataire de ce fauteuil. J'ai nommé Mathieu Noël qui, vous le savez, est privé de micro cette semaine pour avoir forcé Eva Rock, Anne Le Gall et Céline Dacosta à pratiquer du curling en tenue de soubrette.
C'est un grand malade mental.
S'est exprimé la direction en découvrant le poteau rose. Mais à l'évidence, Mathieu ne réalise toujours pas la gravité des faits. J'en veux pour preuve cette carte postale qu'il nous a envoyée depuis sa terre natale, la Suisse. On y voit, en gros plan, une paire de fesses sur fond de drapeau helvétique, le tout accompagné de ces mots « Viens goûter, mon rejeti ».
Mais non.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.
Insatiable Eva Rock. Mais que dire du message écrit au revers de la carte ? Dans un souci d'authenticité, je vais vous le lire avec l'accent de Mathieu, car vous l'ignorez peut-être, mais c'est ainsi qu'il parle en privé. Coco, mais l'ostéic, ça va-t-il ou bien ? Bon, Céline, pour ton augmentation, ouais. Je crois qu'il n'y a pas le feu au lac. Monte pas dans les tours, de bleu, je vais te ramener 90 grammes de gruyère. Bon, les frouzes, je vous fais des becos, tchuss.
Salut, salon.
Oh, Céline, vous valez mieux que ça. Moi aussi, d'ailleurs, vu que je ne vous ai pas encore dit bonjour, bonjour à tous. Bonjour Anne Le Gall, bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Céline, météo du jour.
Ah, déjà, c'était bien de rétablir la vérité sur l'accent de Mathieu Noël. Hein.
Ah oui.
C'est ça, personne
qui est aussi
ne l'avait
le vôtre,
jamais fait.
D'ailleurs, Julien.
Hein,
vous avez un petit peu les mêmes origines suisses que
Mathieu, non? Non,
Mathieu,
mélangez
non
pas les torchons et les serviettes. Moi, je suis au Savoyard. Hein, je suis du bon côté.
Attention. Alors, côté temps, on aura encore un petit peu de pluie aujourd'hui, mais ça va s'arranger par l'est avec le retour des éclaircies. Voilà, je termine par quelque chose de positif.
Bon, bah super. Et quelles questions posons-nous, Anne Le Gall, à nos auditeurs sur Twitter ?
Nous sommes le 12 juin et c'est l'anniversaire, figurez-vous, de Denis Brognard, ex-journaliste à Europe 1, devenu Monsieur Koh-Lanta. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce programme de télé-réalité ? Et puis, quelle épreuve vous pourriez imaginer pour la prochaine saison ? On attend vos réponses pleines d'imagination sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Moi, c'est la musique. Hein. Yakake, yakake. Ouais, voilà. Bon, vous écoutez. À suivre l'essentiel de l'actualité, le journal des sports avec l'exceptionnel Jérôme Lacroix. Debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le mercredi 12 juin. Merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil, il est 5h. 5h, 7h, Julien Pierce.
Le premier journal de ce mercredi 12 juin, c'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Les titres.
Fin de la prise d'otages à la prison de Condé-sur-Sarthe. Les deux surveillants ont été libérés sains et saufs, retenus pendant 6 heures par un détenu au profil psychiatrique très lourd. Un grand oral pour requinquer le quinquennat. Édouard Philippe prononce aujourd'hui à l'Assemblée nationale son deuxième discours de politique générale. Il sera suivi d'un vote de confiance. Et puis le match le plus important du premier tour du mondial pour l'équipe de France féminine de foot, c'est ce soir France-Norvège à vivre sur Europe 1. Les garçons, hier soir, se sont rattrapés de la défaite en Turquie. Victoire 4-0 en Andorre.
Europe 1.
Le calvaire des deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne a pris fin peu après minuit et demi. Ils ont été relâchés sains et saufs après avoir été retenus en otage pendant 6 heures par un détenu de ce centre pénitentiaire ultra sécurisé mais qui abrite aussi des prisonniers parmi les plus dangereux. Le preneur d'otages est un homme de 35 ans au profil psychiatrique très lourd, libérable en 2060, incarcéré depuis près de 20 ans pour des faits de vol, de viol mais aussi pour l'assassinat d'un co-détenu. Il n'en était pas à sa première prise d'otage. Les précisions d'Emmanuel Guimarès, délégué FO pénitentiaire.
C'est un détenu, comme on dit, DPS, un détenu particulièrement signalé, surveillé, parce que il a ce potentiel dangerosité qu'il a manifesté déjà à plusieurs reprises. Il n'en est pas à sa première prise d'otage. Il a été incarcéré très tôt. Il est suivi pour des troubles psychiatriques aussi. C'est pour ça qu'on avait des consignes de suivi un peu plus rapprochées. Pour autant, on n'avait pas de signe de radicalisation du tout. C'était lui qui était en charge de la distribution du repas. Et donc, à un moment donné, je suppose, quand il s'est retrouvé isolé avec les deux collègues, c'est là qu'il a dû sortir son arme. C'est très facile pour un détenu de se fabriquer une arme artisanale. Vous prenez une lame de rasoir, vous prenez une brosse à dents, vous mettez la brosse à dents sous le feu, ça la ramollit, vous y mettez la lame de rasoir, ça vous fait un schlass sans difficulté. Vous prenez une brosse à dents, vous la taillez en pointe, ça vous fait aussi un pic artisanal. Ça, c'est quelque chose qui peut cacher sur lui. Trois mois après l'attentat terroriste du 5 mars, on a le droit de se poser des questions. Il y avait des discussions qui avaient été faites en haut lieu avec la garde des Sceaux et le directeur de l'administration pénitentiaire qui nous avait promis des mesures. Aujourd'hui, ces mesures, elles peinent à arriver. Et voilà, trois mois après, on se retrouve dans la même configuration.
Des propos recueillis par Jean-Gabriel Bourgeois, le preneur d'otage a été placé en garde à vue. C'est dans cette même prison de Condé-sur-Sarthe que deux surveillants avaient été poignardés il y a trois mois par un détenu radicalisé. À Lorient, toujours aucune trace du jeune chauffard sans permis qui a renversé dimanche deux enfants de 7 et 10 ans. L'un est décédé, le second était toujours hospitalisé hier soir dans un état grave. Hier, les autorités ont diffusé la photo du chauffard ainsi que celui de la jeune femme qui se trouvait avec lui dans la voiture au moment des faits. Grande émotion dans le quartier d'origine des jeunes victimes. Les habitants ont déposé hier des fleurs blanches et des peluches sur le lieu du drame.
Europe 1, il est 5h03.
Ce jour va-t-il marquer le début de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron ? L'exécutif l'espère avec le discours de politique générale d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, suivi d'un vote, puis au Sénat demain. Deuxième exercice du genre pour le Premier ministre. Il s'agit de mettre en musique les orientations données par le président lors de sa conférence post-grand débat fin avril. L'écologie et le pouvoir d'achat devraient figurer parmi les thèmes principaux. Qu'attendent de ce discours les députés de la majorité ? Virginie Riva pour Europe 1 est allée leur poser la question.
Avec ce discours, qui doit marquer l'acte 2 du quinquennat, les députés attendent surtout un calendrier clair, des priorités. Ils ne connaissent pas encore les tout derniers arbitrages. Pour Jean-Baptiste Djebbari, il faut surtout un volet social important.
Les textes évidemment sur la retraite, sur la dépendance, les textes bioéthiques, c'est important pour la majorité d'avoir un cadre qui soit maintenant clarifié et précis.
Mais la priorité absolue pour la députée Barbara Pompili, ex-Europe Écologie Les Verts, c'est l'écologie.
Évidemment, de mettre la question écologique au premier rang des priorités, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire des politiques publiques cohérentes, des annonces, et puis aussi l'accompagnement de tous ceux qui peuvent avoir du mal dans la période.
Beaucoup attendent surtout de scruter le vote des parlementaires. Le Premier ministre engage un vote de confiance à l'Assemblée aujourd'hui et fait rare un vote simple demain au Sénat. Le député Laurent Saint-Martin attend une clarification de chacun dans le contexte de la recomposition politique en cours.
Ça va être aussi intéressant de voir quels vont être les votes pour la confiance et puis ça sera aussi intéressant de voir ce que les sénateurs pensent de ce discours de politique générale.
Une façon de compter les troupes, ajoute ce député.
Virginie Riva, discours d'Édouard Philippe à partir de 15h.
Les sénateurs ont adopté hier soir le projet de loi santé.
Porté par la ministre Agnès Buzyn, y ajoutant plusieurs nouvelles mesures afin de lutter contre les déserts médicaux en pleine crise dans les services d'urgence. Sénateurs et députés doivent maintenant se mettre d'accord sur un texte commun. Nouvelle manifestation d'ampleur à Hong Kong après les centaines de milliers de personnes la semaine dernière. Ils protestent contre un projet du gouvernement d'autoriser les extraditions vers la Chine, mesure jugée pro-Pékin. Le projet doit être débattu dans la journée au Parlement. Et puis je sais bien, Julien, que quand on aime, on ne compte pas, mais enfin là, un jeune Américain pourrait bientôt voir son nom inscrit au Guinness Book des records pour être allé voir au cinéma le même film le plus grand nombre de fois. Il a vu le dernier long métrage des super-héros Avengers 110 fois, deux fois par jour, depuis près de 8 semaines.
Oui, quand même.
Oui, ça devient pathologique à ce niveau-là.
C'est ça.
On va peut-être appeler le docteur Ichou. Hein. Bon, merci Jérôme Lacroix pour ce premier journal qui me laisse quelque peu sur ma faim, Jérôme. Oh. Il manque, je crois, les sports. Les sports. À la une, les Bleus du foot sont en vacances.
Et ils peuvent partir l'esprit apaisé. Les champions du monde se sont rattrapés après la sèche défaite en Turquie samedi dernier. Ils sont allés battre Andorre hier soir. 4-0 en qualification pour l'Euro 2020. Plus d'engagement, de sérieux et d'application. Cocktail gagnant, le capitaine Hugo Lloris.
Malgré le contexte, on a su se rendre le match facile en marquant très vite dans ce match. Je pense qu'on a été pro, on a montré beaucoup de sérieux et donc c'est bien, on a montré une bonne image de l'équipe de France. On retient le professionnalisme sur le deuxième match face à Andorre et maintenant tout se jouera en première partie de saison prochaine avec notamment au mois d'octobre un rassemblement décisif.
Hugo Lloris avec Cyril Delamorinerie. Didier Deschamps avait opéré 7 changements au coup d'envoi. Du coup, côté buteur, 3 sur 4 ont ouvert leur compteur en bleu. Les attaquants Wissam Ben Yedder et Florian Thauvin, ainsi que le défenseur Kurt Zouma. C'est Kylian Mbappé qui avait ouvert la marque, le 100e but de sa carrière. Dans le même temps, les Turcs ont perdu 2-1 en Islande hier soir. Et voilà les Bleus du coup de retour à la première place du groupe de qualification.
Ce soir, Jérôme, place aux filles.
Le match le plus difficile de leur premier tour au Mondial en France, les Norvégiennes. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h, match en intégralité. Wendy Renard et Eugénie Le Sommer, ménagées cette semaine, devraient être présentes. Les résultats d'hier, carton record pour les Américaines, championnes en titre, victorieuses 13-0 des Thaïlandaises, avec notamment 5 buts et 3 passes décisives de l'attaquante Alex Morgan. Par ailleurs, 1-0 pour les Pays-Bas contre la Nouvelle-Zélande et 2-0 pour la Suède face au Chili. Le cyclisme et le Belge Dylan Teuns, leader du Critérium du Dauphiné. Hier à l'arrivée à Rion, victoire d'étape pour l'Irlandais Sam Bennett.
Le chiffre du jour, Jérôme.
127 en millions de dollars, les revenus estimés de Lionel Messi, la star du foot, sur les 12 derniers mois. Salaire plus sponsor, selon le magazine américain Forbes. Cela fait de lui le sportif le mieux rémunéré au monde. Classement pour la première fois en 30 ans d'existence, dominé par des footballeurs, puisque Ronaldo et Neymar sont deuxième et troisième de ce classement.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Tout de suite, Jérôme, dans le pressing.
Il est 5h08, Julien Pierce.
Debout les copains se poursuit. Dans un instant, nous nous pencherons sur la météo avec Céline Dacosta avant de découvrir le portrait d'une personne qui a osé changer de vie. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Claire, ex-cadre dirigeante devenue viticultrice. A tout de suite sur Europe 1.
Et les 5h08, Julien Pierce.
Et si on jetait un coup d'œil avec vous à la météo, Céline,
Jetons.
Des averses.
Oui, c'est vrai, il en reste ce matin sur une bonne partie du pays. On a la perturbation de cette nuit déjà qui s'évacue par le nord-est avec quelques gouttes encore le long des frontières. Et puis, un ciel bien perturbé sur toute la moitié ouest avec des orages encore possibles, du vent le long des côtes atlantiques. Pour les autres, c'est plus calme et ça sera déjà ensoleillé une fois qu'il sera levé le soleil, évidemment. Des Pyrénées aux Alpes, les éclaircies vont gagner toute la moitié est cet après-midi, vous voyez, ça ira beaucoup mieux. Seul un gros quart nord-ouest va garder un ciel plus mitigé avec encore des averses, qu'elles sont parfois orageuses, du vent, localement des chutes de grêle. Voilà.
Bref, en Bretagne, quoi, la contrée d'Anne Le Gall.
Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, oui. Toutes ces régions-là vont rester
la
encore un petit
bretonne.
Peu... La fameuse.
Ma chère Anne, quelle question déjà posons-nous à nos auditeurs?
Koh-Lanta. Puisque c'est l'anniversaire de Denis Brogniart, souvenez-vous, nous parlons de Koh-Lanta. Qu'est-ce que vous aimez dans ce programme de télé-réalité? Quelle épreuve vous pourriez imaginer? On vous pose la question avec le hashtag Europe 1. Alors vous avez dit, Julien, que vous aimez la musique, vous. Alors ça, c'est cadeau pour vous.
Moi, j'aime l'équipe des Rouges, toujours.
Voilà. Stéphane.
Ah bon,
je sais pas pourquoi.
Les rouges, vous préférez les rouges?
Toujours,
non,
ouais. Toujours.
On en est à combien de saisons, là?
Je sais pas, oh là là.
On va vérifier ça. En tout cas, Carlisa, nous dit qu'elle adore l'époque des mythiques poteaux et elle aimerait un vote dans chaque équipe pour éliminer un candidat par équipe à chaque conseil et réduire la durée du programme. Bon, voilà. On vous remet la petite musique de Koh-Lanta. Ça, c'est
combien de saisons, Céline?
Apparemment, saison 20. Hein.
Saison 20.
Vache.
Ah ouais, quand même.
Continuez à nous écrire avec le hashtag Europe 1.
5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez Debout les copains, l'émission qui ne met jamais d'eau dans son vin. Et pour cause, certains d'entre vous prennent parfois des décisions radicales. Changer de vie totalement, c'est ce qu'a fait à 63 ans Claire Dorland-Clauzel. Claire a pourtant eu une vie professionnelle bien remplie pendant 30 ans. Haut fonctionnaire tout d'abord, puis directrice générale de deux grands groupes français. Mais il y a un peu plus d'un an, elle en a eu marre de la vie parisienne. Alors Claire est partie dans le Bordelais pour devenir viticultrice.
Fallait oser. C'est mon conjoint qui, lui, avait envie d'arrêter. Et en fait, il y a 3 ans, lui a décidé de franchir les pas. Enfin, il m'a proposé d'acheter un domaine viticole et de changer de vie. Le projet m'a intéressée parce qu'il correspondait, d'une part, à ce goût d'investir, d'avoir sa propre entreprise, et d'autre part, à ce lien que j'ai avec la terre et la production agricole, en l'occurrence viticole.
Alors Claire possédait quelques connaissances en vin et c'est donc avec plaisir mais aussi une grande curiosité qu'elle s'est formée à ce nouveau travail.
Et c'est un vrai projet à deux, elle ne l'aurait jamais fait sans son mari. Son tempérament d'entrepreneur la pousse à vouloir améliorer constamment la qualité de son vin et à avancer avec beaucoup d'humilité. Elle adore le contact avec la terre, elle adore le travail en extérieur. Le plus déroutant en fait pour Claire, ça a été au début de tout faire elle-même. Pas de secrétaire, il faut tout prendre en main.
C'est une combinaison de modestie, d'humilité, de travail, parce qu'on travaille beaucoup pour apprendre. Et en même temps, on apporte autre chose parce qu'on a une vision un peu différente. Et puis, c'est un changement de vie complet. Quand on a été en direction générale, on est extrêmement assisté, ne serait-ce que par une assistante de très haut niveau. On s'appuie sur des équipes. Là, on est tous les deux et on a 3 employés. Il faut tout faire soi-même. Donc, moi, ma plus grande surprise au début, c'est que les premiers jours, on prend ses rendez-vous au téléphone soi-même, on prend son billet de train, on prend son billet d'avion, on fait tout. Donc il faut y être prêt.
Cette exploitation a aussi permis à Claire et à son mari de se voir beaucoup plus souvent et de profiter de leur vie de couple. Et Dieu sait que c'est important.
Et oui, et leur vin s'appelle, on le dit, le château La Tuilière. À consommer avec modération, évidemment. Et puis, si vous aussi, vous avez changé de vie, écrivez-nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h12, Julien Pierce.
Vous écoutez Debout les copains, l'émission qui vous fait découvrir de jeunes artistes en devenir. Quand j'ai rencontré ces deux-là dans le métro, j'ai eu, je dois l'avouer, un peu pitié. Elle, beaucoup trop maquillée, lui, même pas rasé. Diantre, mais dans quel monde vit-on ? Dans ma grande mansuétude, j'ai consenti toutefois à leur demander de nous chanter une chanson. Leur nom, Lady Gaga et Bradley Cooper. Shallow, sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Shallow, chanson extraite du film A Star Is Born de Lady Gaga et Bradley Cooper. Bradley qui, aux dernières nouvelles, serait à nouveau célibataire.
Ah ouais.
On se calme, les filles.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Julien Pierce.
Fin de la prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe. Les deux surveillants ont été libérés sains et saufs, retenus pendant 5 heures par un détenu au profil psychiatrique très lourd qui a été placé en garde à vue. Et c'est dans cette même prison de l'Orne que deux surveillants avaient été poignardés il y a 3 mois par un détenu radicalisé. À Lorient, toujours aucune trace du jeune chauffard sans permis qui a renversé dimanche deux enfants de 7 et 10 ans. L'un est décédé, le second était toujours hospitalisé hier soir dans un état grave. Les autorités ont diffusé sa photo ainsi que celui de la jeune femme qui se trouvait avec lui dans la voiture. Grande émotion dans le quartier d'origine des jeunes victimes. Les habitants ont déposé hier des fleurs blanches et des peluches sur le lieu du drame. Ce jour va-t-il marquer le début de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron ? L'exécutif l'espère avec le discours de politique générale d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, aujourd'hui à 15h. Il s'agit de mettre en musique les orientations données par le président lors de sa conférence post-grand débat fin avril. L'écologie et le pouvoir d'achat devraient figurer parmi les thèmes principaux. Et puis le match le plus important du premier tour du mondial pour l'équipe de France féminine, c'est ce soir, France-Norvège à vivre sur Europe 1. Les garçons se sont eux rattrapés de la défaite en Turquie, victoire 4-0 en Andorre.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce mardi. Dans un instant, avec la bande de Debout les copains, nous passerons en revue la presse du jour. Mais avant, on passe aux courses. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Julien, il y aura des courses cet après-midi à Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 103 Carac. Prometteur deuxième le 18 mai sur l'hippodrome de Salon de Provence. À l'issue d'une fin de course qui n'est pas passée inaperçue, il effectuera un long déplacement depuis le sud-est avec de légitimes ambitions. Bien né et en plein épanouissement, ce poulain à peine âgé de 3 ans a visiblement le bon profil pour réussir dans cette catégorie des quintés et il devrait pouvoir ainsi justifier la confiance affichée par son nouveau mentor Frédéric Rossi. Alors notez bien, pour cet après-midi à Saint-Cloud, réunion 1 dans la première course, le numéro 3, Carac.
C'est noté, merci Thierry Léger.
Il est 5h19.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez Debout les copains et il est l'heure, en ce mercredi et non mardi comme je viens de le dire, du pressing chronique dont le nom peut porter à confusion vu que Jérôme Lacroix vient d'entrer dans le studio avec un sac de linge sale. Ouais. À la une de vos quotidiens régionaux et nationaux ce matin, le visage d'Édouard Philippe qui prononce aujourd'hui son discours de politique générale, écologie, impôts, retraite, PMA, c'est le jour J pour expliquer ce qu'il veut faire, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Renforcer, Édouard Philippe veut renforcer les réformes, avance de son côté Le Figaro. Pendant ce temps, Libération a choisi de mettre en une la crise dans le parti de Jean-Luc Mélenchon. C'est la France insoumise, titre Le Quotidien. Autre sujet dominant, La Croix et Les Échos s'alarment de la pollution au plastique dont la production mondiale reste en forte hausse. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, rappellent les deux quotidiens. Et puis, la tête à l'endroit, à la une de l'équipe, c'est le titre choisi par Le Quotidien sportif pour qualifier la prestation hier soir de l'équipe de France masculine de foot. Succès 4-0 face à Andorre. L'équipe qui n'oublie pas les Bleus ES qui jouent leur deuxième match de Coupe du Monde ce soir face à la Norvège. Un gros morceau en perspective, analyse Le Quotidien. Et vous les amis, qu'avez-vous trouvé d'intéressant dans la presse ce matin ? Anne Le Gall, on débute avec vous.
Son corps est un vrai chewing-gum. Voilà le titre de l'article dont je vous parle ce matin. Cet article, c'est le récit du quotidien... Je recommence.
3-0.
C'est le récit du quotidien de Valérie. J'avais mal écrit Valérie, je suis perturbée. Une quinquagénaire qui se réveillera peut-être ce matin avec la mâchoire démise ou l'épaule luxée. Si c'est le cas, elle remettra tout en place toute seule. Elle a l'habitude. Cela peut lui arriver jusqu'à 10 fois par jour. Valérie est est en fait atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique évolutive qui touche une personne sur 5000 en France. Elle touche la charpente de l'organisme. Les articulations deviennent trop souples, la peau élastique. Il peut y avoir des saignements et une cicatrisation difficile. Valérie parle de son corps comme d'un chewing-gum ou d'un carambar fondu au soleil. La maladie s'est aggravée il y a 10 ans et elle passe désormais 90% de son temps dans un lit médicalisé. Et si l'on parle de cette maladie aujourd'hui, c'est parce que les 14 formes de cette pathologie génétique vont faire l'objet d'un PNDS, un protocole national de diagnostic et de soins. C'est une reconnaissance par le ministère de la Santé d'un référentiel de bonnes pratiques. C'est pour que la maladie soit mieux diagnostiquée et mieux prise en charge. Une nouvelle évidemment qui réjouit Valérie. Elle a mis des années à mettre un nom sur sa maladie. J'ai une maladie mais je ne suis pas morte avant Stella. Un optimisme à toute épreuve qui force le respect. C'est un beau témoignage à lire ce matin en page 8 du Parisien.
J'imagine que ça doit être extrêmement douloureux là, de elle se démettre en permanence.
Elle explique que si ça nous arrivait à nous, on irait directement aux urgences. Et elle s'est habituée. Et petite, elle ne savait pas qu'en fait, c'était pas normal d'avoir si mal tout le temps. Et elle prenait des douches chaudes pour soulager en fait sa douleur.
Comment s'appelle cette maladie, qu'on s'en souvienne ?
C'est la maladie d'Ehlers-Danlos.
Très bien. Céline Dacosta.
Alors moi, j'aurais pu encore vous parler des trottinettes électriques. Hein. J'ai l'impression que c'est un sujet qu'on aborde dans la presse tous les jours en ce moment.
Ah oui, il y a eu un mort hier à Paris.
De la plus triste des manières aujourd'hui, puisque lundi soir, effectivement, à Paris, un jeune homme de 25 ans a perdu la vie. Il circulait en trottinette, il a été percuté par un camion. Alors on attend les avancées de l'Assemblée sur ce projet de loi. Et en attendant, eh bien, soyez extrêmement prudents sur la route. Alors non, ce matin, moi j'ai décidé, si ma voix me le permet, de vous parler du bac. Épreuve qui approche à grands pas. Tout le monde a son bac ici ?
Oui.
Bac quoi ? Vite.
ES, moi aussi.
Ouais. Moi, je suis bac C, c'est l'ancienne c'est génération.
Voilà. Et un L pour moi. Alors, dans Corse, ce matin, on a une double page avec les 10 commandements pour bien réussir son bac. Alors, avant toute chose, sachez que si vous ou votre enfant, pour les parents qui nous écoutent, n'avez pas bossé cette année, rien n'est perdu. Les experts du lycée Diderot à Marseille vous donnent leurs conseils. Le premier, c'est de varier les matières. Réviser 30 minutes l'une, puis une heure pour l'autre, pour éviter de saturer. Travailler en petit groupe, avec des amis, c'est plutôt cool. Si vous arrivez à rester concentré, mais ça peut être un piège, hein, nous dit-on, parce qu'on se sent confiance et que le jour de l'examen, bah, on est tout seul. Les experts nous conseillent d'adopter une bonne hygiène de vie, on évite les excitants, le café, le thé, l'alcool, on essaie de manger équilibré, on fait attention à son transit. Le jour de l'épreuve, petit conseil...
Très bon petit déjeuner, hein, à
voilà,
tous.
Bon appétit. Voilà. Le jour de l'épreuve, petit conseil, lire l'énoncé jusqu'au bout, ne vous précipitez pas et commencez par les sujets qui vous semblent le plus faciles, on a tendance à faire l'inverse, on commence par les sujets les plus difficiles, on dit non. Commencez par le plus simple et restez concentré sur votre feuille. Évitez de regarder un petit peu ce que font les autres à côté. C'est vrai que c'est stressant de voir que les autres avancent plus vite que vous. Et puis, trouvez le temps de faire du sport, des pauses, restez zen. Ça, c'est pour les parents. Et cuisinez des petits plats à vos enfants. Ça va vous déstresser et ça va leur faire du bien aussi. Bien réussir son bac, les 10 commandements, c'est-à-dire dans Corse ce matin. Et on souhaite évidemment bonne chance aux futurs bacheliers.
Oui, et puis je précise qu'à 6h20, pour tous ceux qui vont passer le bac philo lundi prochain, nous recevons une prof de philo et auteure de livres grand public sur le sujet, Marie Robert, qui a le talent de vulgariser cette matière qui nous semble si difficile de prime abord. Est-ce que vous avez la mention ?
Non.
Moi, je n'ai pas eu, non.
Non.
Assez bien.
Je suis entouré de cancre. Voilà. Non, mais c'est terrible.
Parce que vous avez la mention très bien.
Moi, j'ai la mention bien. Ouais,
ah ouais.
Et je ne suis pas passé loin de la très bien. Bon, voilà, je vais arrêter de me la péter
ça.
Et je me tourne.
Vous êtes à votre place et nous à la nôtre.
C'est ça.
Sûrement.
Je t'explique.
Sûrement. Mon cher Jérôme Lacroix.
Oui, moi, j'ai été stupéfait ce matin par un papier du Figaro. En voici le titre. À la recherche des disparus des forêts russes. D'où l'on apprend que chaque année en Russie, 120 000 personnes disparaissent, dont 23 000 jeunes ou enfants, égarés à jamais dans les marécages, les bouleaux, les herbes folles des forêts. Alors, ce peut être un grand-parent souffrant de la maladie d'Alzheimer, mais aussi d'innombrables promeneurs qui partent, par exemple, à la cueillette aux champignons, parce que ça reste une source de revenus non négligeable pour une certaine partie des Russes. Le Figaro raconte qu'il est arrivé que 150 personnes disparaissent en forêt en une seule journée. Deuxième lame d'étonnement à la poursuite de la lecture de l'article. Alors en France, un proche disparaît, bah, réflexe, vous appelez la police, la gendarmerie. Mmh. Et ben en Russie, non. Les habitants n'ont pas du tout confiance en leurs autorités. Ils préfèrent se tourner vers des associations privée spécialement créée pour la recherche de disparus. Pendant longtemps, la vie humaine n'a pas eu beaucoup de prix en Russie, explique le porte-parole de l'une de ces associations. Nous nous efforçons de rehausser la valeur de ces vies. L'association la plus connue en Russie, elle s'appelle Lisa Alert. 85 antennes dans le pays, 11 000 personnes retrouvées depuis sa fondation en 2010. Création après justement la disparition en forêt de Lisa, une fillette de 5 ans. Les parents avaient alerté les autorités qui n'avaient pas bougé, mobilisés par ailleurs sur un événement culturel. Le père a alors lancé un SOS sur Internet et des anonymes ont accouru l'aider. Voilà comment est née l'idée de la création de l'association. Engagement bénévole, ils sont 20 000 aujourd'hui, avec l'aide parfois de pilotes d'hélicoptères privés, beaucoup de femmes. Elles sont laborantines, attachées de presse, manucures, esthéticiennes à Moscou et dans sa région. Elles laissent parfois leurs propres enfants aux amis, aux grands-parents pour partir 5-6 heures en forêt, chacune munie d'une balise GPS. Elles se partagent minutieusement un secteur quadrillé. L'association affirme ne recevoir aucune aide de l'État, un État très critiqué en Russie pour son inaction sur ces affaires de disparition, à lire dans le Figaro. C'est une enquête.
Oui, ça a l'air édifiant en tout cas tout ça. Merci Jérôme Lacroix, merci à vous trois. Le pressing baisse le rideau.
Europe 1. Et il est 5h26, Julien Pierce.
Debout les copains se poursuit avec la météo de Céline Dacosta, suivie du journal de 5h30 d'Hélène Zellani. Et puis nous retrouverons ensuite le docteur Ichou qui va nous parler de la NASH, la maladie de la malbouffe. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h28, Julien Pierce.
La météo, Céline Dacosta, ciel encore gris ce matin.
Oui, et ça sur les trois quarts du pays, avec des averses encore présentes de la Gironde au Poitou-Charentes jusqu'en Basse-Normandie et en Bretagne. On peut avoir quelques coups de tonnerre au milieu de tout ça, et notamment sur les côtes atlantiques avec du vent. Et puis, il reste quelques gouttes encore le long des frontières du Nord. C'est la perturbation de cette nuit qui s'évacue. C'est plus calme en revanche pour les autres, avec même quelques éclaircies déjà ce matin. Grand soleil des Pyrénées aux Alpes et en Corse. Côté température, c'est encore frais, vous l'avez sans doute déjà constaté au lever du jour. 6 petits degrés à Tarbes, 8 degrés à Aurillac, 10 degrés à Paris. Il en fait 11 à Brest, à Bordeaux, 12 à Lille, 14 à Mulhouse. Plus doux dans le sud-est avec déjà 17 degrés à Nice et même 21 à Bastia en ce moment.
Et cet après-midi, on peut attendre du mieux pour l'est de la France ?
Oui, le retour de larges éclaircies et d'un temps sec sur tout le flanc est. Sur la moitié sud, ça sera pas mal aussi. En revanche, ça va rester nuageux et pluvieux, orageux du Poitou-Charentes aux Hauts-de-France en passant par la région centre et l'Île-de-France avec localement des chutes de grêle possibles. Quant aux températures, cet après-midi, on prend les mêmes qu'hier, voilà, c'est à peu près la même chose. 14 à 20 degrés la moyenne, jusqu'à 24 degrés à Montélimar et Nîmes, 26 pour la maximale, toujours pour Bastia.
Merci Céline, et soignez cette voix que je sens défaillir.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez Debout les copains, votre 5-7 bien informé et joyeux à souhait. Dans la demi-heure qui vient, on va faire le tour de l'actualité avec Hélène Zellani et un grand tour de la culture avec la bande de mercredi Les Bons Tuyaux. Au programme, un film avec des poules bio, un nouveau Zelda promis par Nintendo et une série sur YouTube intitulée Rigolo. Vous l'avez compris, ça vole très haut en ce mercredi.
Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 5h30. 5h-7h, Julien Pierce.
Les infos de ce mercredi 12 juin, c'est avec vous Hélène Zellani. Bonjour Hélène.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
La fin de la prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe. Le détenu qui retenait deux surveillants s'est rendu. La cavale continue pour le chauffard qui a renversé deux enfants à Lorient. La police a diffusé sa photo et celle de sa passagère. Et puis le foot, la facile victoire des Bleus hier soir en Andorre. 4-0, match de qualification pour l'Euro 2020. Ce soir, les filles affrontent la Norvège dans le Mondial. Soirée spécial sur Europe 1.
Europe 1.
Il était un peu plus de minuit et demi quand la prise d'otage de la prison de Condé-sur-Sarthe a pris fin. Le détenu qui retenait deux surveillants depuis 5 heures s'est rendu, des surveillants qui sont sains et saufs. Le preneur d'otage âgé de 35 ans souffre de troubles psychiatriques. Il veut être transféré dans un autre établissement. On avait déjà parlé de cette prison de Condé-sur-Sarthe il y a 3 mois avec l'attaque de deux surveillants par un détenu radicalisé, ultra sécurisé à l'accueil des prisonniers particulièrement dangereux.
À Lorient, la traque se poursuit, Hélène.
Oui, 3 jours après le drame, un enfant tué, un autre dans un état critique. Le chauffard et sa passagère sont toujours en fuite. Hier, la police a diffusé un appel à témoins avec leurs photos et leurs signalements. Hélène Terzian est à Lorient pour Europe 1.
Ils semblent décidés à prendre la fuite ensemble. Lui, jeune homme de 20 ans sans emploi, déjà condamné pour des faits de conduite sans permis. Elle, 21 ans, vendeuse dans une boutique de vêtements. En couple pendant 2 ans, selon des proches de la jeune fille, ils ont vécu une relation tumultueuse et seraient même séparés depuis plusieurs mois. De quoi peut-être expliquer les doutes de cette ancienne camarade de collège de la passagère.
De ce que je connais d'elle, c'est une fille droite et je ne sais même pas ce qu'elle faisait avec un garçon comme ça de base. Bah, une fille comme ça qui irait faire des problèmes et puis bah, des délits comme ça, quoi. Donc oui, bah, pour moi, elle est juste complice dans l'histoire maintenant. Elle a préféré continuer avec son amour qu'elle aime et non.
Mais fuit-elle de son plein gré? Selon le cercle d'amis proches de la jeune fille, le chauffeur aurait toujours une forme d'emprise sur elle. Des amis décrivent un compagnon possessif. Certains évoquent même des gestes violents. Une relation qui interroge et qui nourrit l'inquiétude des proches. Famille, amis, personne n'arrive à les contacter ni à les géolocaliser sur les réseaux sociaux.
Hélène Terzian à Lorient pour Europe 1. Et puis on saura aujourd'hui si le médecin anesthésiste de Besançon reste en liberté sous contrôle judiciaire ou s'il est placé en détention provisoire. Le docteur Péchier est soupçonné d'avoir empoisonné 24 patients. Europe 1, il est 5h32.
C'est le grand jour pour Édouard Philippe. Il prononce son discours de politique générale à l'Assemblée nationale.
Oui, ça sera à 15h. Le Premier ministre doit évoquer les réformes à venir et en préciser le calendrier, l'assurance chômage ou encore les retraites, l'écologie, la dépendance, mais aussi les baisses d'impôts. Les derniers arbitrages doivent être décidés lors du déjeuner qui se tiendra tout à l'heure avec Emmanuel Macron. Les futurs candidats à la présidence des Républicains devront prendre un engagement moral, ne pas se présenter à la présidentielle de 2022. Ainsi en a décidé la direction du parti qui tenait hier soir un bureau politique. Le remplaçant de Laurent Wauquiez sera élu en octobre prochain.
Une drôle de découverte en Ariège, un ourson de 5 mois a été retrouvé près des habitations du village de Coufflans.
Oui, l'animal non sevré, qui errait sans sa mère, n'aurait sans doute jamais survécu s'il était resté dans la nature. Il a été recueilli par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, Nicolas Alban, et délégué Occitanie de l'Office.
L'ourson qui était manifestement affaibli, qui avait des difficultés à se mouvoir et qui n'était accompagné d'aucun adulte ni autre ourson. C'est un ourson de l'année, donc âgé tout juste au mieux de 5 mois. Et à cet âge-là, il n'a aucune chance de survivre dans la nature. Tout d'abord, il a pu être abandonné par sa mère. C'est cruel, mais ça arrive dans la nature. Il a pu être éloigné de sa mère et ne plus pouvoir la retrouver. Le gros enjeu, ça va être qu'il conserve sa crainte de l'homme et qu'il ne s'habitue pas à la présence humaine. Il pourrait ne pas pouvoir se débrouiller tout seul. Un animal qui est habitué à être nourri n'est plus capable de se nourrir seul. Il pourrait s'approcher trop près des humains et effectivement à causer des interactions désastreuses. Donc c'est tous ces risques qu'il nous faut éviter. Ce genre de cas est amené à se répéter avec l'augmentation de la population d'ours. Aujourd'hui, avec une 50aine d'ours dans les Pyrénées, on a de nombreuses naissances chaque année. Et donc forcément, qui dit nombreuses naissances chaque année, dit ce genre d'événement qui devient de moins en moins rare.
Un propos recueilli par Mathieu Bock pour Europe 1. Et puis Julien, on sait déjà que le plastique est partout autour de nous, qu'il nuit à l'environnement, mais nous en avalons aussi, selon un rapport dévoilé ce matin, des microparticules qui représentent 5 grammes chaque semaine, soit le poids d'une carte de crédit, 250 grammes par an. Alors d'où vient ce plastique? D'abord de l'eau, surtout en bouteille, mais aussi des fruits de mer, de la bière et du sel.
De la bière aussi.
Ouais.
Mince.
Non, c'est triste.
Du plastique dans les... Il n'y a pas que du houblon, la bière. Alors.
C'était le journal d'Hélène Zellani. Hélène, je n'ai pas sous les étoiles bu la liqueur de ta voix. Je n'ai pas levé ton châle ni dormi auprès de toi. Aujourd'hui, de ton visage, aujourd'hui, longtemps après, j'ai perdu jusqu'à l'image, mais j'en garde les regrets. Dis donc, Hélène, vous faites un effet bœuf à Hugo Frey. Hein.
Bon Hélène, bon Hélène,
ah, c'est quand même autre chose que la prose de Tony Parker. Allez, on passe au journal des sports avec Jérôme Lacroix. À la une, soir de première en bleu.
Il a tout chamboulé, Didier Deschamps, après la sèche défaite des champions du monde de foot en Turquie samedi dernier. 7 changements hier soir en Andorre, toujours en qualification pour l'Euro 2020. Bon choix, succès 4-0 avec plus de sérieux et d'application. Et certains bleus, qu'on avait peu vus jusqu'alors, ont saisi leur chance en inscrivant leur premier but en sélection. Le défenseur Kurt Zouma, mais aussi les attaquants Florian Thauvin et Wissam Ben Yedder, le joueur de Séville, titulaire de dernière minute après la blessure d'un coéquipier.
Je me souviendrai toujours de ce premier but, ça c'est une certitude, c'est un rêve d'enfance et j'ai réussi aussi à faire en sorte de faire ce qu'il faut pour mon premier match, mais encore une fois voilà, on devait se rattraper aussi du match de la Turquie et on a fait le job.
Et c'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score hier soir, le 100e but de sa carrière. Les
Déjà
Turcs, eh oui, Eh oui, 100e but, voilà, à peine 20 ans. Les Turcs ont été battus 2-1 en Islande. Les Français, du coup, récupèrent la première place du groupe de qualification, désormais vacances. Prochain match, France-Albanie, le 7 septembre. Le Mondial Dames et soirée spéciale des 20h sur Europe 1 pour suivre France-Norvège. Deuxième match des Bleus, le plus difficile du premier tour. Rendez-vous après le journal de 6h tout à l'heure pour le journal de la Coupe du Monde. On reviendra aussi sur le carton record des Américaines face aux Thaïlandaises hier soir. Victoire 13-0. Un mot de tennis et après la terre battue, la saison sur herbe débute avec en point d'orgue Wimbledon dans 2 semaines et demie. Joli tir groupé bleu avec hier les qualifications de Simon Monfils et Pouille pour le deuxième tour du tournoi de Stuttgart.
La personnalité du jour, Jérôme, force le respect.
J'ai choisi Caster Semenya, la double championne olympique du 800 mètres qui se bat contre la Fédération internationale d'athlétisme. Semenya, elle est hyper androgène, elle sécrète naturellement beaucoup de testostérone, trop selon la Fédération, qui veut lui imposer un traitement médical afin de faire baisser ce taux au nom de la concurrence. Pas question pour Semenya, combative via les tribunaux mais aussi via ses performances sportives. Hier, elle était au meeting de Montreuil près de Paris, elle y a remporté le 2000 mètres.
Je n'ai pas de temps pour délivrer des messages à quiconque. Je me concentre sur moi, c'est eux qui ont un problème avec moi, pas moi. C'est leurs affaires, pas les miennes. Je suis une athlète. La seule réponse que je peux apporter, ce sont mes performances.
Caster Semenya au micro européen d'Axel May.
C'était le journal de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme, on vous retrouve, vous l'avez dit, après le journal de 6h pour le journal de la Coupe du Monde féminine.
Il est 5h37, Julien Pierce.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous évite de devenir gros, mais qui peut aussi vous rapporter gros. Dans un instant, le docteur Ichou va nous parler de la NASH, la maladie de la malbouffe. Et puis on fera également un détour par l'hippodrome de Saint-Cloud pour les courses avec José Coves. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h38, Julien Pierce.
Vous écoutez Debout les copains et je sens depuis quelques minutes naître comme une pointe de jalousie dans ce studio. Je vous vois, Céline, fulminée sur votre siège depuis qu'Hélène Zélani a eu le droit à une chanson d'Hugo Frey. Rassurez-vous, enfin, la plus belle, c'est pour vous qu'il l'a écrite.
Ah oui. Dis-moi, c'est vrai. Céline, les années ont passé, oui. Pourquoi n'as-tu jamais...
Bah, j'ai pensé au début pour les impôts, par exemple. Et puis après, on s'est dit que finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Hugues, tu m'entends ?
Non, ne rougis pas, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux.
Ouais, bah, malgré le temps qui passe, merci Hugues. Oh, ça me fait quelque chose. On me l'a jamais chanté en plus.
Céline, est-ce que la météo du jour va nous rendre heureux comme cette chanson ?
Eh bien oui, vous voyez, je vous avais préparé une petite question. Alors,
où peut-on trouver le soleil aujourd'hui ?
Voilà, parce qu'il y en a du soleil. Voilà, vous voyez, c'est une bonne nouvelle. Alors ce matin, on va en trouver sur l'extrême sud des Pyrénées aux Alpes et en Corse. Il brillera déjà largement. Et puis cet après-midi, il y en aura un petit peu plus sur tout le flanc est avec un peu de nuages. Mais ça va bien briller. En attendant, on a encore ce matin un ciel bien bâché sur le nord-est avec des pluies possibles. C'est le cas aussi sur une moitié ouest de la Normandie à l'Aquitaine avec des orages là aussi, orages qui concerneront surtout un gros quart nord-ouest cet après-midi en allant quand même jusqu'à la région parisienne, le tout sous des températures encore fraîches pour la saison, 14 à 20 degrés seulement pour cet après-midi avec un petit 19 à Paris, jusqu'à 26 degrés pour la maximale en Corse à Bastia.
Merci Céline. Anne Le Gall, je suis désolé, Hugo Frey n'a pas encore écrit de chanson avec votre prénom. Vous m'envoyez désolé. Quoi de neuf du côté de Twitter ?
Alors, joyeux anniversaire à Denis Brogniard, ex-journaliste à Europe 1, devenu Monsieur Koh-Lanta. Depuis ce matin, on vous pose la question, qu'est-ce que vous aimez dans ce programme Koh-Lanta ? Quelle épreuve vous pourriez imaginer pour la prochaine saison ? Alors, soyons clairs, vous n'êtes pas tous fans de programmes de télé-réalité et vous nous le dites avec le hashtag Europe 1. Mais Olivier a une suggestion qui est intéressante. Pourquoi pas un Koh-Lanta dans le froid ? Un Koh-Lanta d'hiver qui serait le complément de la version actuelle.
C'est génial comme idée.
Dans la neige et en pleine montagne. Mais pourquoi pas ?
Alors, déjà qu'ils ont du mal à trouver à manger.
Voilà. Ouais, et dormir dans le froid, c'est un petit peu plus douloureux, on va dire. Qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, ouais. Effectivement, ça va être pas mal. Ouais.
Continuez à nous écrire avec le hashtag Europe 1.
Merci beaucoup, Anne Le Gall.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
C'est l'heure de notre rubrique santé avec le docteur Marcel Ichoux. Bonjour Marcel.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, 12 juin, c'est la journée internationale de la NASH. Mais qu'est-ce que c'est que la NASH et surtout comment on la soigne ?
Ce concept de maladie est relativement récent. Il est la conséquence d'un mode d'alimentation bien éloigné du régime alimentaire naturel. Mais avant d'envisager les causes, voyons un peu ce qui se passe au niveau du foie. La NASH est le terme anglais qui signifie non-alcoolique stéatose hépatique. Je ne vous l'ai pas dit en anglais, j'ai du mal. Le foie devient gras. C'est l'équivalent d'une cirrhose hépatique, mais la destruction des cellules, dans ce cas, n'est pas due à l'alcool, mais à un excès de graisse qui envahisse le foie. Ce n'est pas spécifiquement la consommation excessive de graisse qui entraîne cette pathologie, c'est paradoxalement la consommation excessive de sucre. Le sucre en excès se transforme en graisse dans l'organisme, ces graisses viennent s'accumuler dans le foie, c'est le foie gras. Cette maladie survient chez les personnes souffrant d'obésité, de diabète ou d'hypertension artérielle et environ un malade sur cinq atteint de NASH développera à terme une cirrhose et présentera un risque accru de cancer du foie.
Alors pourquoi ne parlons-nous de cette maladie que depuis peu de temps ?
Parce que cette maladie est la conséquence d'un bouleversement de notre mode d'alimentation. Le marketing de l'industrie alimentaire pousse à une alimentation qui n'est plus liée à la satisfaction des besoins primaires et du plaisir qui l'accompagne, mais nos comportements sont induits par cette communication qui nous pousse à manger plus gras, plus sucré et en totale déconnexion avec nos véritables besoins. Une note d'espoir cependant, dans ce monde de brut, la NASH est un phénomène beaucoup plus important aux États-Unis qu'en France.
Ah, ben voilà.
Et la figure emblématique du patient qui risque d'être victime de cette pathologie est celle du mangeur de Big Mac accompagné de soda et de desserts hyper sucrés, le tout dans des formats king size. Une des dominations de la NASH est la maladie du soda. La NASH est la forme ultime d'une tendance à l'obésité. Pour vous mettre à l'abri, ayez une consommation de sucre modérée et éduquez vos enfants assez tôt à ne pas consommer trop de sucre.
Et à manger des légumes et des fruits.
Merci Marcel Ichu, on se retrouve demain à la même heure pour un nouveau Point Santé.
Europe 1, il est 5h44, Julien Pierce.
Vous écoutez Debout les copains et il est l'heure d'écouter l'une des voix qui compte de la scène musicale française. Il nous a fait chanter à tue-tête avec Louise Attaque, il nous a fait pleurer en écrivant le dernier album d'Alain Bachung et il nous a fait danser avec son premier album solo dont voici un extrait. Gaëtan Roussel est un artiste complet, Help Myself sur Europe 1. Très bon réveil à tous. C'est sorti il y a déjà presque 10 ans, Help Myself, Gaëtan Roussel, dont je vous conseille le dernier album Trafic, sorti l'année passée.
Europe 1. Il est 5h47, Julien Pierce.
Debout les copains continuent à suivre mercredi les bons tuyaux avec au programme En vrac, des films de poules, de zombies, des héros de jeux vidéo et une série rigolo. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 5h48, voici l'essentiel de l'actualité avec vous Julien Pierce. Une fois que vous l'aurez retrouvé.
On va passer à José Covès aux courses en attendant qu'on retrouve les titres. Bonjour José Covès.
Bonjour à Saint-Cloud, priez pour nous. 18% âgés de 3 ans sont au départ de la première course. Voici mes 5 préférés. Le 17 Similaire a prouvé qu'il était de taille à briller à ce niveau. Il se doit de confirmer. Le 9 Toronada vient de finir à la vitesse du vent dans l'épreuve de référence. Ça décoiffe. Le numéro 2 Samothrace est en super forme et son nom appelle une victoire. Carac, le 3 monte du sud-ouest avec de bons titres. Il ne fait pas le voyage pour rien. Lyonce, le numéro 6, enchaîne les bonnes performance, il doit poursuivre sa marche en avant. 3 concurrents profiteront de la moindre défaillance. Le 16, Arom, elle vient de gagner avec de la marge. Puis le 5, Driven, lui aussi s'est mis en avant la dernière fois. Et le 4, Campron, plus affûté, plus compétitif. Mon ticket pour la première course vers 13h50. D'abord le 17, le 9, le 2, le 3 et le 6. Et ensuite le 16, le 5 et le 4.
À vous écouter, José, dans ce quintet, Toronada, le 9, a tout à gagner. Hein.
Elle a littéralement crevé l'écran le 23 mai à Longchamp, finissant 3e, plus vite que le reste du peloton. Elle est incontournable. Julien, Toronada, le 9, gagne vraiment à être connu.
Merci, José Covès. À demain.
Et il est 5h49, l'essentiel de l'actualité avec vous, Julien Pierce.
Fin de la prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe. Les deux surveillants ont été libérés sains et saufs, retenus pendant 5 heures par un détenu au profil psychiatrique très lourd qui a été placé en garde à vue. C'est dans cette même prison de l'Orne que deux surveillants avaient été poignardés il y a 3 mois par un détenu radicalisé. Les sénateurs ont adopté hier soir le projet de loi santé porté par la ministre Agnès Buzyn, y ajoutant toutefois plusieurs nouvelles mesures afin de lutter contre les déserts médicaux en pleine crise dans les services d'urgence. Députés et sénateurs doivent maintenant se mettre d'accord sur un texte commun. Rendez-vous jeudi de la semaine prochaine. Et puis ce jour va-t-il marquer le début de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron ? L'exécutif l'espère avec le discours de politique générale d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui à 15h.
5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. L'émission continue avec les conseils culturels de la bande de mercredi, les bons tuyaux. Anne Le Gall pour les écrans, Clément Le Saff en direct de Los Angeles pour les jeux vidéo et Mathieu Charrier pour le cinéma. Bonjour à vous trois.
Bonjour, bonjour.
Mon cher Mathieu. Bonjour. Oh, bonjour. Ah oui, je sais, il faut pas dire bonjour à Anne Le Gall à cette heure-là, sinon je me fais en guirlandais. Mon cher Mathieu, commençons-nous, si vous le voulez bien, avec cette histoire de poule, Roxane.
Exactement, c'est un beau film paysan, Roxane. C'est l'histoire de Guillaume de Tonquédec qui joue Raymond, éleveur de poules pondeuses bio, qui se rend sûr de lui. Il a révisé son texte à une réunion de la coopérative à qui il compte bien demander d'acheter désormais ses œufs. 2 centimes de plus chacun, il n'arrive plus à s'en sortir. Sauf que, au lieu de ça, la direction annonce qu'elle ne se fournira plus chez les petits producteurs comme Raymond. Pour que le bio soit rentable, il faut des grosses exploitations. Alors Raymond va avoir une idée, parce que depuis très longtemps, cet amateur de théâtre lit des grands textes à ses poules pour les détendre sous un arbre, très tranquillement, du Cyrano de Bergerac notamment. Il se dit donc qu'il va jouer ses textes avec sa poule préférée, Roxane, d'où le titre, qu'il emmène partout avec lui, et poster les vidéos sur Internet pour faire le buzz. Alors, va-t-il réussir grâce à cela à sauver son exploitation? Je vous laisse le découvrir. En tout cas, c'est un pitch qu'on pourrait moquer, et franchement, ce serait un tort, car ça donne un film empreint à la fois de beaucoup de drôlerie, de moments d'émotion. On comprend à travers ce film l'attachement des paysans à leur terre, à leur troupeau. C'est la première réalisation d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Mélanie Auffray, qui elle-même est issue d'une famille de paysans. Franchement, je vous le conseille, vous allez passer un bon moment. C'est un film sans prétention, mais réussi. Ça s'appelle donc Roxane, c'est le nom de cette poule.
Guillaume de Tonquédec, rafraîchit. C'est moi la mémoire, c'est bien celui qui fait l'un des papas dans Fais pas ça.
Sur France 2, c'est ce qui l'a popularisé effectivement.
Voilà. Vous nous conseillez aussi Mathieu Zombie Child, le nouveau film de Bertrand Bonello.
Oui, qui se base sur une histoire vraie assez incroyable, celle de zombies à Haïti dans les années 60. Je vous explique. En 62, un homme d'une quarantaine d'années est zombifié, c'est-à-dire qu'il est d'abord empoisonné par des hommes, enterré, toute sa famille le pleure car le pense mort, et puis ces hommes qu'il avait zombifiés viennent le sortir de sa tombe avec une nouvelle drogue de nouveau, et ils le ressuscitent en quelque sorte avant de l'envoyer travailler dans des champs de canne à sucre. Cet homme, il a mis 13 ans à s'en sortir, à venir retrouver sa famille. C'est une histoire vraie, hein, qui est connue en Haïti. Alors Bonello raconte cette aventure, celle des zombies au sens large, parce qu'il y a eu plusieurs cas de ce type, en la mettant en parallèle avec la petite fille de ce zombie à Paris en 2019, toujours évidemment hantée par cette histoire incroyable et terrible. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que c'est un film qui est parfois un peu onirique, qui parle aussi d'héritage, entre guillemets, de l'esclavage, de rites vaudous. C'est un film qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, qui est un petit peu pointu, mais si vous aimez le beau cinéma, vous serez servi. Ça s'appelle donc Zombie Child.
Et ces deux films sortent en salle aujourd'hui. Merci Mathieu Charrier. Du cinéma aux jeux vidéo, il n'y a qu'un pas, mais un grand, puisqu'on part tout de suite direction Los Angeles, retrouver Clément Le Saffre. Bonjour Clément.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Alors vous êtes à l'E3, le salon des jeux vidéo qui se poursuit, et hier c'est Nintendo qui était sous le feu des projecteurs.
Oui absolument, et on ne s'y attendait pas forcément, mais eh bien, c'est Nintendo qui va sortir comme le grand gagnant des conférences de l'E3. Elles se sont achevées toutes aujourd'hui, maintenant le salon va ouvrir au public. Alors Nintendo, plutôt qu'un show comme Xbox, avait opté pour une vidéo en fait préenregistrée d'une trentaine de minutes diffusée en direct sur YouTube. Et Nintendo a misé cette année sur une valeur sûre, un jeune homme blond avec une tenue, un chapeau vert, il porte une épée, un bouclier, je suis sûr que vous l'avez reconnu maintenant, c'est
Zelda,
Link, le héros. Exactement, le héros des jeux Zelda. On a donc eu droit à un très joli aperçu de Link's Awakening. C'est un remake d'un jeu culte sorti en 1993 sur Game Boy. Alors ça ne nous rajeunit pas du tout. Alors c'est une vraie Madeleine de Proust, hein. Ce petit jeu, c'est en 2,5D, c'est-à-dire qu'on est sur des décors très plats, mais avec des petits personnages miniatures très ronds, très mignons, un peu comme les premiers Pokémon. Voilà, c'est très très joli. Les graphismes ont été refaits de A à Z pour coller à l'époque. C'est vraiment très très beau. Ça arrive en septembre. Alors ça, c'était l'annonce qui était attendue, mais on a aussi eu une belle surprise quand Nintendo a dévoilé à la toute fin de la vidéo, vraiment on pensait tous que ça allait s'arrêter, eh bien, les premières images de la suite de Zelda Breath of the Wild. Là, c'est le dernier de la série et c'était le jeu de l'année 2017, une magnifique aventure sur Switch. Tous les médias spécialisés lui avaient même donné la note de 20 sur 20. Voilà, c'est très très rare dans le milieu du jeu vidéo. Et donc Nintendo, eh bien, a révélé qu'il travaillait déjà sur la suite. Alors a priori, il va falloir être patient, ça ne devrait pas sortir avant 2021, mais voilà, ça a suffi à exciter tous les fans de Zelda à Los Angeles.
Nintendo n'a quand même pas que parlé de Zelda, j'imagine.
Non, je vous rassure, hein, là, il y avait plus de 30 minutes de vidéo et il y avait beaucoup d'annonces, beaucoup de jeux. Donc Nintendo a montré Luigi's Mansion 3, c'est un nouveau jeu de cette série gentiment effrayante, hein. Vous savez, qui emmène Luigi, le frère de Mario, dans un hôtel hanté. Il est chargé de se débarrasser des fantômes qui hantent le lieu avec un aspirateur. Voilà, c'est assez fun, c'est assez drôle. Et il y a aussi le dernier Pokémon, évidemment, épée et bouclier. Et puis Mario et Sonic aux Jeux Olympiques qui vont de nouveau faire équipe en prévision des JO de Tokyo qui auront lieu l'an prochain. Voilà, donc l'année va être très chargée chez Nintendo. Il y aura beaucoup de choses à faire. Et surtout, c'est bien parce que ce sont des jeux familiaux.
Je retiens surtout qu'il y a un nouveau Pokémon en préparation. Ça m'intéresse ouais, fortement.
On ne les compte plus, hein.
Oui, effectivement. Allez, je me tourne. Merci Clément Le Saffre en direct de Los Angeles et bonne suite à l'E3. Je me tourne vers Anne Le Gall pour terminer. Anne, côté écran, quel est votre bon tuyau du jour ?
Eh bien, puisque nous sommes mercredi, que c'est le jour des sorties ciné, n'est-ce pas Mathieu Charrier ? Je vous invite à regarder Rigolo sur YouTube. Rigolo, c'est une série de vidéos qui décrypte de façon très documentée les ressorts narratifs et humoristiques des grandes comédies françaises. Pourquoi Christian Clavier et Louis de Funès font-ils rire en étant autoritaires, conservateurs et misogynes ? Comment fabrique-t-on un gaffeur horripilant comme dans Le Dîner de cons avec Jacques Villeray ou comme dans La Chèvre avec Pierre Richard ? Comment fonctionnent les duos comiques ? Voilà le type de décryptage proposé à grand renfort d'archives et de répliques cultes. Autre exemple, comment l'humour des nuls à la télé, Chantal Lobby, Dominique Farrugia, Alain Chabat, a-t-il été transposé au cinéma dans La Cité de la Peur en 1994 ? Élément de réponse avec cet extrait.
Dans La Cité de la Peur, les nuls ont régulièrement recours à la métalepse en faisant interférer la caméra dans l'action, en bruitant une séquence à la bouche. Ou encore en faisant dialoguer la voix off avec les personnages.
Cannes, troisième jour.
Quelle heure il est ?
9h30 AM.
Waouh, déjà ?
Non mais j'avance un peu.
Voilà, et ce ne sont que 30 secondes. Effectivement, ce ne sont que 30 secondes d'une vidéo qui dure 10 minutes. Autant dire que chaque vidéo est une pépite hyper documentée, rythmée et surtout drôle. 4 épisodes signés Hugo Alexandre et David Honora sont pour l'instant en ligne et on attend la suite. Les vidéos rigolos, c'est donc à voir sur YouTube.
Ah bah je vais aller regarder ça en sortant de ce studio. Merci génial. Anne Le Gall, merci à vous trois pour ces bons tuyaux et à demain les copains.
Europe 1. Il est 5h57, Julien Pierce.
À suivre dans Debout les copains, la météo de Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 5h58, Julien Pierce.
Et Céline, avec votre beau maillot de l'équipe de France masculine.
Il est magnifique. Oui, je n'ai pas encore celui de l'équipe de France féminine, mais je soutiens à fond les filles.
Vous nous annoncez malgré tout un peu de fraîcheur ce matin.
Mais oui, c'est vrai. 6 petits degrés à Tarbes en ce moment. Il en fait 8 à Aurillac, 10 à Tours, 11 à Brest, à Lyon, à Bordeaux, 12 degrés pour Lille, 14 à Mulhouse, et puis 17 déjà du côté de Nice, 21 à Bastia. Les températures cet après-midi, elles vont être un peu semblables à celles d'hier, hein, un petit peu fraîches donc pour la saison. 14 à 20 degrés. 19 à Paris, jusqu'à 24 à Montélimar et 26 pour la maximale à Bastia.
Côté ciel, ce matin, c'est le gris qui domine.
Oui, et ça sur les trois quarts du pays, avec des averses encore présentes de la Gironde au Poitou-Charentes jusqu'en Basse-Normandie puis en Bretagne. On peut aussi avoir quelques coups de tonnerre sur les côtes atlantiques avec du vent, et puis il va rester quelques gouttes encore le long des frontières du Nord. C'est plus calme, en revanche, pour les autres, avec même quelques éclaircies déjà ce matin. Grand soleil même des Pyrénées aux Alpes jusqu'en Corse, et puis cet après-midi. La bonne nouvelle, c'est que ça va s'arranger sur une partie est du pays, puisque le soleil va revenir. Sur la moitié sud, ce sera pas mal aussi, avec un petit peu plus de nuages que ce matin. Et puis, ça va rester nuageux en revanche, et même pluvieux, orageux, du Poitou-Charentes aux Hauts-de-France, en passant par la région centre et l'Île-de-France, avec localement des chutes de grêle possibles. Donc, on garde le parapluie à portée de main dans ces régions.
Entendu. Merci, Céline Dacosta.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.